À Mossoul, en Irak, 3 ans après la fin de la guerre contre l'État islamique et la libération de la ville, partout ces tonnes de gravats et ces milliers d'enfants.
Je vis avec mes 4 sœurs, mes 3 frères et ma mère. Mon père est en prison. Quelqu'un a dénoncé mon père en l'accusant d'être un membre de Daesh. Ils sont venus le chercher. Ils l'ont emmené. On n'a plus eu de nouvelles.
Fils et filles de djihadistes ou anciens enfants soldats, ils sont ceux que l'organisation terroriste a laissés derrière elle, les plus vulnérables.
Anne Poiret est une journaliste et réalisatrice française, lauréate du prix Albert Londres 2007. Elle est spécialiste des questions de l'après-guerre au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Elle proposait dans le cadre de la 29e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 31 mai au 5 juin, Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre, qui retrace par le biais de différents témoignages le parcours d'enfants livrés à eux-mêmes après les combats contre Daesh. Ce sont des orphelins errant dans les rues de Mossoul ou des camps contrôlés par les Kurdes. Sans papier, ils n'ont pas accès ni à l'école, ni aux soins médicaux, ni à l'aide alimentaire. Avant de retrouver la réalisatrice en interview, je vous propose d'écouter la réaction d'une spectatrice recueillie à l'issue de la projection.
C'est une question fondamentale de comment on aide des enfants à sortir de l'enfer qu'ils ont vécu, quoi. Une chose aussi que je réalisais pas, c'était de se dire que ces femmes yézidis, on les laissait pas revenir avec leurs enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui me bouleverse, quoi.
On comprend surtout toute la complexité de toutes ces problématiques, parce que toutes les problématiques sont mises à jour, en fait, dans ce film. Et on sent que c'est pas simple. Il y aura toujours éventuellement cette suspicion qui va planer au-dessus de cette tête de ces enfants qui sont les victimes collatérales, finalement.
En même temps, une chose qui m'a marquée, c'est qu'elle a montré aussi des mères et des enfants qui sont encore imbibés de Daesh, quoi, et qu'on ne peut pas nier ça. En plus, c'est vrai que quand on voit ce film, on voit tous les débats qu'il y a en France et qui ont été évoqués à la fin dans le débat sur cette question de faire revenir tous ces enfants en français. Mais si on fait rien pour ces enfants, ils seront encore pires que si on fait quelque chose. Pour moi, le fait qu'on assiste après au débat et à la réalisatrice qui a tourné le film, ça me touche aussi énormément, quoi. Ça change tout le regard qu'on a sur le film, d'avoir pu échanger avec elle après, quoi.
Dans ce quartier, il y a des gens qui me traitent de Daesh. Je leur parle pas. Ça me fait rien. Qu'est-ce que je peux dire?
Qui sont ces enfants du chaos? Fanatisés hier par l'État islamique, stigmatisés aujourd'hui dans ce nouvel Irak. Comment cette génération pourra-t-elle se reconstruire dans ce pays brûlé par la guerre? La société leur laissera-t-elle seulement une chance?
On retrouve à présent Anne Poiret, réalisatrice du film documentaire « Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre » pour évoquer avec elle, entre autres, son travail autour de ce film.
Anne Poiret, vous venez de présenter votre documentaire. Bon, le titre parle de lui-même, hein, « Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre ». Film très très fort, hein, où on comprend vraiment toute la complexité avec toutes les problématiques que vous travaillez dans ce film. Comment vous avez réussi, justement, et sous quelles conditions vous avez obtenu les autorisations pour aller filmer au plus près ces jeunes dans les centres de rétention?
Alors, vous l'avez dit, on aborde des situations qui sont assez diverses. Des enfants qui sont incarcérés, des enfants qui sont retenus dans des camps dans le nord-est syrien, des enfants qui sont dans des camps kurdes, des enfants qui sont terrés chez eux, cachés. Et donc, à chaque fois, on a abordé les choses différemment. Je pense que c'est important de rendre hommage aux gens avec qui on travaille sur place. En l'occurrence, un garçon qui s'appelle Sangar Khalil, qui est un fixeur qui est assez extraordinaire, qui connaît très très bien à la fois les familles yézidis, qui connaît très bien Mossoul, avec qui moi j'avais déjà travaillé sur un précédent film. Et c'est vraiment ces personnes, ces fixeurs qui nous permettent de travailler les autorisations. Après, c'est aussi une question de temps. On a passé beaucoup de temps à discuter avec des ONG qui s'occupaient de ces enfants pour qu'ils aient confiance en nous, qu'ils sachent qu'on venait pas pour... D'abord qu'on allait protéger l'identité de ces enfants. Hein. Tous les enfants qui sont dans le film sont masqués, sont anonymisés. On leur a donné des prénoms, évidemment, c'est pas leur prénom réel. Donc voilà, il y a une question de temps et une question de... vraiment d'un travail d'un fixeur local, en fait, qui nous permet de travailler.
Ah, le film commence sur une scène très forte, qui nous met direct dans le vif du sujet. Une sorte de dépotoir où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ce qui résume un peu d'ailleurs pratiquement, même si évidemment le film après exploite d'autres sujets problématiques. C'est un choix vraiment pour frapper fort dès le départ, si je peux m'exprimer ainsi.
En fait, c'est un choix qui est très naturel pour moi parce que j'avais fait un premier film qui s'appelait Mossoul après la guerre, où on parlait de la reconstruction. On avait tourné pendant un an avec les gens qui tentaient de reconstruire cette ville, qui a été vraiment une ville martyre de la reprise des combats contre Daesh en 2017, des mois et des mois de guerre, d'une guerre urbaine abominable, et dans laquelle énormément de choses ont été détruites. Ce film se terminait dans les gravats avec des enfants qui étaient déjà des enfants des familles de Daeshi, qui essayaient de survivre en trouvant des morceaux de cuivre, des morceaux de ferraille qu'ils essayaient de revendre. Et donc pour moi c'était important de recommencer ce film à partir de là, parce que ces enfants ils sont partout. Quand vous allez à Mossoul, vous les voyez absolument partout. Et ils survivent généralement des débris de ce conflit, des restes et des conséquences de ce conflit qu'ils sont eux-mêmes.
Il y a un terme aussi qui a retenu mon attention, qu'on voit un peu au début du film, la tabria. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur ce terme ?
C'est un processus dans lequel, il faut comprendre que quand l'État irakien a repris possession des territoires qui étaient tenus, qui avaient été pris par Daesh, et administrés comme une sorte d'État, comme un proto-État, ils ont demandé à ces populations de refaire leurs papiers. Et c'est un processus très complexe, très bureaucratique, très long, qui demande aux familles de passer un certain nombre de screenings, certains tamis comme ça, qui les obligent à passer auprès des forces de sécurité. Et souvent, quand les noms sont associés à des familles de Daesh, ces gens n'obtiennent pas leurs papiers. Et donc, sans papier en Irak, vous n'avez pas accès à l'école, vous n'avez pas accès à l'hôpital, vous n'avez pas accès à des aides alimentaires, vous ne passez pas un checkpoint, il y a énormément de checkpoints à Mossoul. Donc voilà, c'est vraiment absolument essentiel. Et donc beaucoup de ces familles se battent pour essayer d'obtenir des papiers. Et pour ça, il y a cette procédure qui est en fait une façon de... L'État demande que ces femmes renient leur famille, leur mari notamment, les renient. Et à partir de là, ils peuvent espérer réenclencher un processus pour obtenir les papiers, ce qu'ils n'obtiennent pas toujours. Mais c'est quelque chose qui est vraiment un chemin de croix judiciaire et qui est... parfois, ça coûte cher parce qu'il faut prendre des avocats. Parfois, il y a des épisodes de corruption. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui n'est pas garanti du tout et qui demande effectivement à ce que ces femmes, pour que l'État irakien, finalement, ait cette garantie de loyauté, renie leur mari et leur vie passée pour obtenir ces papiers.
Alors évidemment, il y a plein de témoignages très forts, on ne va pas tous les citer parce que ce serait juste impossible, sinon on passerait des heures. Mais il y a surtout le témoignage de Tarek qui avoue que la seule erreur qu'il ait commise dans sa vie, c'est d'avoir suivi ses 20 jours de formation coranique. Témoignage plutôt fort et pas évident à s'exprimer. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des mises en confiance obligatoires ? Vous avez passé du temps, j'imagine, avec ces jeunes pour leur dire... Il n'y a pas d'inquiétude, de toute façon, vous serez resté anonyme. Parce qu'il tient à rester anonyme, de toute façon.
Oui, bien sûr, évidemment, il est hors de question qu'on dévoile leur identité. Il fallait les protéger, mais on vient toujours... en l'occurrence, là, on est avec une ONG qui connaît son histoire, qui connaît Tarek, et on a établi cette relation de confiance avec cette ONG pour que, il y a une espèce de garantie que... Il peut nous faire confiance. Cette formation, ce qui s'est passé, c'est que, et on le raconte dans le film, le juge Raïd de Tel Kev du tribunal antiterroriste nous le raconte, ils ont eu des fichiers, ils ont récupérer des fichiers dans lesquels l'État islamique pointait en fait les membres de l'État islamique, mais parfois c'était des membres qui n'avaient juste effectivement soit fait une formation, soit qui avaient des appointements. Enfin, c'était les gens qui étaient sur ce fichier n'étaient pas tous des combattants, des gens qui avaient réellement combattu. Mais le fait de faire partie de ce fichier, donc le fait d'avoir suivi parfois une formation coranique ou une formation, vous met sur des fichiers qui après entraîne des condamnations. Et pour ce garçon, il avait été pris à 14 ans, passé 19 mois dans ce centre où ils étaient 200, passés dans une chambre. Il nous le raconte en voyant, en sortant une fois par semaine dans une cour pour voir le jour, sans lit, entassés les uns sur les autres, sans aucune forme d'éducation, dans des conditions absolument infâmes et contraires au droit irakien, puisque l'État irakien interdit d'incarcérer des jeunes s'il n'y a pas à la clé un processus de réhabilitation. Et donc ce juge qui nous a laissé un tout petit peu filmer dans cette prison nous a laissé parce que lui-même était horrifié par ce qu'ils étaient en train de faire depuis des mois. Il appelait à des changements, à ce que la communauté internationale se mobilise pour construire un nouveau centre, ce qu'il a fini par obtenir. Mais après des mois et des mois et des mois où ces enfants ont pour certains grandi comme ça pendant 2 ans, entassés dans ces conditions épouvantables et qui, selon le juge lui-même, ne peut que générer la haine.
On comprend aussi toute la complexité de la mise en place de centres de rééducation, de centres de réinsertion, notamment peut-être aussi avec la communauté internationale. On peut évoquer la France. On sait que de toute façon, il reste à peu près 200 Français, je crois, dans les camps. Bon, votre choix, évidemment, d'avoir voulu faire un film juste sur les enfants irakiens. Comment ça se passe avec les communautés internationales ? Je pense que vous avez dit pendant le débat que votre film avait été montré à l'ONU.
Les gens en charge connaissent cette situation. Y compris des gens au sein du gouvernement irakien sont assez conscients du problème. Moi, j'avais été très frappée par le général Joubouri, par exemple, qui est un homme qui a conduit les combats pour l'armée irakienne de reprise de Mossoul et qui est devenu gouverneur. Je l'avais rencontré quelques mois après la libération de Mossoul et il était très, très haineux par rapport aux familles de Daesh. C'est-à-dire que vraiment, il disait, moi, ma priorité, c'est les gens qu'on a libérés, entre guillemets, les autres, ces familles-là, elles ont qu'à crever. Et quand je l'ai rencontré pour ce film, il avait complètement changé d'avis. C'est-à-dire qu'il disait, oui, c'est un problème. Je sais que c'est un problème, que ces enfants grandissent dans les camps, ce sont des bombes à retardement, il faut les en sortir. Le problème, c'est qu'en Irak, il y a tellement d'urgence, tellement de problèmes immédiats qui se posent, par exemple, commencer par former un gouvernement. Il y a que des urgences. Et donc, beaucoup de gens en charge sont conscients aujourd'hui que c'est un problème, mais c'est un problème qui va se poser à moyen terme. Et donc, ils ne sont pas dans cette temporalité-là, malheureusement.
Et puis, y a ce fameux centre d'Anol, en Syrie, où l'État islamique, évidemment, est toujours prégnant dans les esprits, notamment de certains jeunes. Et de femmes radicalisées, pour eux, l'avenir est encore plus compromis, j'ai l'impression. Comment on peut éventuellement... Est-ce qu'il y a des équipes sur place pour les aider, les rééduquer, les réinsérer ?
Alors, les réinsérer, les rééduquer, non. Il y a quelques ONG, on a filmé dans le camp Save the Children, qui donnent des rudiments d'éducation très, très, très basique. Mais en effet, vous l'avez dit, il y a 60 000 personnes. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore tout à fait empreintes de cette idéologie. Et surtout, l'État islamique n'a pas disparu du nord-est syrien. Au début de l'année, il y a une attaque de la grande prison des hommes, là pour le coup qui n'est pas un camp de déplacés, qui est une vraie prison. La principale prison pour hommes d'Asaké a été attaquée par une centaine de combattants djihadistes. Il a fallu aux forces kurdes des jours et des jours et l'intervention des forces américaines pour faire cesser ces combats. On ne sait toujours pas aujourd'hui combien de gens sont morts, on ne sait pas combien de personnes d'hommes se sont évadés. Donc les conditions de sécurité pour ces gens qui sont très 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 dangereux ne sont absolument pas, pour les maintenir hors d'état de nuire, ne sont absolument pas réunies aujourd'hui. Et donc quand vous avez parlé des enfants français, effectivement c'est pas l'objet de ce film. Il y a eu des documentaires, il y a eu il y a des ONG, enfin c'est pas l'objet du film tout simplement, mais il y a 200 enfants qui sont dans un autre camp, aujourd'hui pas le camp d'Al-Hol, mais un autre camp qui s'appelle Roj, et que l'État français refuse toujours de rapatrier pour les mêmes raisons que l'État irakien rechigne même s'ils ont commencé à le faire maintenant un petit peu pour ramener les enfants sur leur territoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les conditions, même si on imagine en France qu'on est plus protégé de ces enfants, qui sont des enfants, hein, souvent très très petits, donc ça reste des victimes, hein, si on est plus protégé là-bas que s'ils étaient ici, en fait, c'est absolument faux. Voilà, on sait que l'État islamique est sur place. On sait qu'ils ont essayé de, qu'ils ont libéré un certain nombre de gens de la prison d'Assaké et qu'ils peuvent tout à fait s'attaquer à ce centre de Roj et récupérer ces femmes et ces enfants.
On sent quand même qu'il y a une note positive, il y a les ONG. Il y a une école primaire, à la fin du film, on le dit, qui a été rouverte. Malheureusement, avec le coronavirus, c'était compliqué. Mais quand même, leur avenir à ces enfants reste totalement incertain.
Oui, alors il y a peut-être la note positive, elle vient plutôt des Irakiens, de l'extraordinaire capacité de résilience des gens de Mossoul, par exemple, qui sont très très peu aidés, hein, dans la reconstruction de la ville. La communauté internationale est présente, mais vraiment très peu au regard des besoins. Le peuple de Mossoul, les gens de Mossoul sont d'une extrême résilience et on peut imaginer qu'ils seront capables à terme d'une forme de réconciliation, mais pour l'instant c'est tôt quand même, c'est vraiment très tôt.
Et puis ce qui est sans doute le plus effrayant et le plus effroyable même, c'est ces femmes qui ont été victimes de viol, hein, un crime de guerre par excellence de Daesh, et qui sont obligées d'abandonner leurs enfants dans des orphelinats. On a le portrait de Firdaus, hein, qui laisse sa petite Leïla à l'orphelinat. Apparemment, là aussi, il y a une petite note positive. Ça, il y a eu du mieux depuis le tournage du film.
Alors, il y a une microscopique de bonne nouvelle, en effet, c'est qu'une dizaine de ces femmes, dont Firdaus, qui n'est évidemment pas son vrai nom, ont été réunies avec leurs enfants. C'est une histoire un peu rocambolesque, mais en tout cas, elles ont été réunies côté Kurdistan irakien. Mais leur avenir dans leur famille est impossible. C'est-à-dire que les familles refusent de les récupérer. Voilà. Donc à nouveau, c'est un nouvel arrachement avec leur famille. Aujourd'hui, Firdaus elle-même, malheureusement, est toujours au Kurdistan irakien, dans un endroit tenu secret. Il n'y a pas encore eu de possibilité pour elle de quitter le pays, parce que c'est vraiment leur seul avenir. Mère et fille ensemble ne peuvent pas venir en Irak. En revanche, une partie de ces femmes, de cette dizaine de femmes, a pu quitter le Kurdistan irakien et a été accueillie en Suède. Mais on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers encore de femmes yézidis qui sont portées disparues. Probablement beaucoup sont mortes, mais on sait aussi que beaucoup sont dans ce camp d'Al-Hol et refusent de se signaler parce qu'elles savent très bien qu'on va leur enlever leurs enfants et qu'elles préfèrent continuer à vivre auprès de leur bourreau, des femmes de leur bourreau, au milieu de femmes de Daesh, plutôt que de rejoindre leur famille parce qu'elles savent que ça veut dire abandonner leurs enfants.
C'était un sujet autour de la 29e édition du FIGRA, Festival du Grand Reportage et du Documentaire de Société, qui s'est déroulé à Douai du 31 mai au 5 juin. On évoquait le film documentaire de Anne Poiré qui présentait Les enfants de Daesh, les damnés de la guerre, proposé en compétition internationale dans la catégorie film de plus de 40 minutes. Une sélection de grands reportages d'actualité et documentaires de société sur la réalité du monde. Anne Poiré a été récompensée par le prix du public pour ce film.